Bonjour à tous, bienvenue dans Fire Escape. Aujourd'hui, je discute avec Julien Delange, qui va nous raconter son histoire absolument fascinante. Après avoir grandi avec beaucoup d'a priori concernant les États-Unis, il est tombé amoureux de la ville de Pittsburgh, en Pennsylvanie, et a tout fait pour y retourner. C'est ce qu'il a réussi à faire en 2012, et il est depuis devenu un citoyen américain. Il a travaillé dans la Silicon Valley, il a acheté une vingtaine de maisons, il a levé des millions de dollars pour créer une start-up qu'il a revendue, et il a couru une soixantaine de marathons dans les quatre coins des États-Unis. Un parcours hors du commun, donc, qui pourrait peut-être inspirer tous ceux qui songent au rêve américain. Aujourd'hui, on part en Pennsylvanie, à Seattle, San Francisco, Denver, New York et bien plus. C'est parti. Salut Julien, bienvenue dans le podcast.
Salut Arthur.
Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que pour commencer, tu peux déjà te présenter ?
Je m'appelle Julien, je suis entrepreneur, mais de formation, je suis ingénieur. Et j'habite à New York et ça va faire 12 ans que j'habite aux États-Unis.
Ben justement, avant de rentrer un peu dans le vif du sujet, est-ce que tu peux me parler un peu de ton quotidien à New York ? Comment tu décrirais ta vie ici ?
C'est assez dur pour moi d'habiter dans une grande ville. À la base, moi, je viens de Normandie, dans un petit village où en fait... il y a beaucoup de nature, c'est très silencieux, et arriver dans une ville comme New York, déjà pour moi Paris c'était assez difficile, donc arriver à New York, c'est une ville avec beaucoup de bruit, c'est très oppressant, ça parle un peu partout, les gens sont parfois un peu agressifs, c'est assez difficile. Au niveau du quotidien, c'est pas vraiment différent d'un quotidien de quelqu'un qui bosse dans une boîte normale, puisque maintenant je suis employé et la raison pour laquelle je suis venu à New York, c'est pour rejoindre une grosse boîte, donc Datadog, et de construire un produit, de monter une équipe. Donc, ce n'est pas vraiment différent d'un employé. Et puis après, effectivement, de temps en temps, je sors un peu, mais on va en parler plus tard. Je suis aussi très lié à Denver et Pittsburgh. Ouais. Et donc, je ne reste pas si souvent que ça à New York.
Est-ce que tu peux décrire un peu ce que tu fais comme métier ? Est-ce que je sais que tu es programmeur, mais tu fais un peu plein de trucs en même temps. Comment tu décrirais ton activité ?
En fait, je suis ingénieur, mais c'est un peu compliqué parce que quand tu as fait une startup, ce que tu fais, c'est que tu construis des produits. Donc, il faut que tu aies une vision de ce que tu veux faire et après, tu vas implémenter le produit. Donc, mon rôle officiel, c'est ingénieur logiciel. Donc, c'est senior staff software engineer. Mais vraiment, ce que je fais au jour le jour, là où je suis, c'est vraiment de construire un produit, d'établir la vision du produit, de le construire avec les équipes, de dire ce qu'on va faire à chaque trimestre et puis d'implémenter le produit. C'est vraiment ça le cœur de mon boulot. Et puis après, quand tu es dans une grosse boîte, tu vas aussi, bien sûr, collaborer avec d'autres personnes. Mais vraiment, il y a un rôle plus produit qui va lier les différentes personnes qui travaillent, donc designer, sales.
Donc, tu es un peu plus manager que programmeur finalement.
Ouais, mais j'aime vraiment pas ce terme de manager parce que, en général, le manager n'implémente pas beaucoup, donc il ne fait pas vraiment. Mmh. Et en fait, moi, je pense toujours que c'est très, très bien d'avoir les mains dans le cambouis et de savoir comment les choses fonctionnent. Mmh. Donc, c'est pour ça que je me suis toujours... j'ai toujours évité d'être manager. Je pense que c'est très important de comprendre comment les choses fonctionnent et d'être quelqu'un qui fait, de savoir faire les choses. Et c'est pas évident quand tu vieillis, parce que quand tu vieillis, ça va être de plus en plus compliqué à apprendre. Mais je pense qu'il faut avoir, cette culture de faire et de savoir faire.
Bon, parlons un peu des États-Unis, parce que c'est pour ça qu'on est là, ouais. et ton parcours particulièrement. Tu m'as dit que tu avais grandi en détestant les États-Unis ou en tout cas en ayant plein d'a priori sur le pays. Est-ce que tu peux m'en dire plus et aussi m'expliquer comment tu as changé d'avis ? C'était quoi le déclic ?
Je pense que beaucoup de Français, enfin j'espère que beaucoup de Français qui nous écoutent pourront peut-être se reconnaître là-dedans. Je pense que la France, en général, on nous éduque à ne pas aimer les États-Unis. Je regarde quand j'étais jeune, les films qui venaient des États-Unis, c'était, on leur donnait une connotation plutôt péjorative. Je me rappelle justement de Terminator, par exemple, quand c'est sorti, ou Rambo, ma mère me disait c'est pas des films intéressants, il ne faut pas regarder ça. Mm-hmm. Si tu ouvrais les journaux des personnes bien pensantes, donc Télérama et compagnie, on va te dire que ce n'était pas bien du tout. Et aujourd'hui, c'est devenu des films cultes. Mm-hmm. En fait, je pense qu'on a toujours traité les Américains d'impérialistes. Et je trouve qu'on a... On n'a pas vraiment de leçons à donner. Par exemple, on dit toujours que les Américains, ils font la guerre partout, mais si on regarde ceux qui vendent des armes, la France, je pense, n'a pas vraiment beaucoup de leçons à donner. Mm-hmm. Donc, en fait, jusqu'à 25 ans, j'étais toujours dans cette dynamique-là où je pensais que les États-Unis, c'était le pays un peu impérialiste avec sa musique, ses films... sa culture qu'ils essayent d'étendre. Mais nous, on a fait la même chose. Hein. La francophonie, c'est ça. Hein.
Bien sûr. Donc, toi, tu ne regardais pas vraiment ces films-là? Tu n'étais pas touché par cette culture?
Si, mais ma mère, mes parents, c'était... il ne fallait pas vraiment regarder. Mm. Tu sais, c'est très... moi, j'ai vécu... Ma mère travaillait dans l'éducation nationale. Donc, c'est... avant tout les valeurs françaises, il fallait essayer de regarder les films français. Et puis même en France, hein, si tu regardes, tu as un quota de musique qui doit passer à la radio. On essaye de dire que, ah non, ma bonne dame, les films américains sont pas bons, sont trop violents. Mm-hmm. Et puis en fait, avec le temps, on a vu que ces films-là, ils étaient vraiment bien. Enfin, Terminator 2, moi, c'est un film que j'ai adoré. Et tu vois que même... le cinéma américain nous a énormément influencé. Je pense particulièrement à Luc Besson, par exemple. Le cinquième élément, Léon, Léon, ça se passe à New York.
Et donc, c'était quoi le déclic? Que tout ça, c'était pas forcément vrai.
En fait, quand j'avais 25 ans, j'étais invité à visiter les États-Unis à Carnegie Mellon, à Pittsburgh. Et on va en parler, hein, c'est vraiment la ville, moi, qui m'a marqué.
Donc, c'est une université, c'est ça, pour les gens qui ne connaissent pas?
Ouais, Carnegie Mellon, c'est l'université, c'est parmi les... Enfin, vraiment une université qui est très bonne au niveau computer science, donc informatique. Donc, c'est les études que je faisais. Et en fait, j'étais un très mauvais élève et je ne sais pas par quel concours de circonstances, mais j'ai fait une thèse et du coup, on m'a invité à venir à Carnegie Mellon. Et je pensais que j'allais être détesté et j'ai adoré. J'ai vu des gens le premier jour, quand je suis sorti de chez moi, j'ai vu des gens qui me demandaient comment ça allait. Hey, how you doing? Enfin, tu vois, les gens te disent ça dans la rue, alors qu'en France, jamais on va te dire comment ça va. Quand j'allais dans... La première fois, je suis allé dans un bar et puis j'avais vraiment besoin de passer d'un coup de fil. La serveuse m'a donné son téléphone, alors qu'en France, jamais ça se passerait comme ça. Donc, j'ai vu des gens qui étaient très sympas. Et puis, des gens qui sont très positifs, en fait. C'est marrant, mais en fait, les gens aux US sont en général assez positifs, alors qu'en France, le verre d'eau est à moitié plein, alors qu'en France, le verre d'eau est plus à moitié vide. Et ça, moi, j'ai vraiment adoré. Et j'ai découvert une culture qui est bien différente de ce qu'on voulait me donner, des gens qui sont bien plus ouverts d'esprit, une diversité... culturel, ethnique, aussi culinaire. Enfin, si t'es à New York, tu peux manger ce que tu veux.
Ouais, ça c'est génial.
Et donc du coup, ça m'a vraiment fait changer d'avis. J'ai trouvé un pays qui est d'une richesse incroyable, avec des personnes qui viennent un peu de partout. Tu es à New York, donc tu vois que t'as des personnes qui viennent des quatre coins du monde. Moi, j'ai vraiment adoré. Et c'est un espèce de bordel à organiser qui est vraiment cool. Quand je suis arrivé, c'était l'élection entre Obama et McCain. C'était hallucinant pour moi de voir quelqu'un qui avait sur sa maison une pancarte « Je vote pour ».
Ouais.
Donc, pour ceux qui ne sont jamais venus aux États-Unis, si vous venez pendant une période d'élection, vous allez voir des gens qui mettent sur leur maison « Je supporte le candidat X ou Y ».
Et ils ne sont pas forcément agressés pour ça. C'est ça qui est toujours assez fou.
Ah oui, oui. Et les gens coexistent. C'est un bordel organisé avec plusieurs cultures qui vivent ensemble. Moi, ça m'a plu. Et du coup, à partir de ce moment-là, j'ai changé de quelqu'un qui n'aimait pas forcément les États-Unis à quelqu'un qui adorait les États-Unis. Et le seul but que j'ai eu dans ma vie à partir de ce moment-là, c'est de vivre aux États-Unis. c'était d'arriver à Pittsburgh. C'était vraiment le but de ma vie.
Pourquoi Pittsburgh en particulier? Comment est-ce que tu es tombé amoureux de cette ville?
En fait, au début, au début, moi, je voulais arriver aux États-Unis. Et après, en fait, pendant ma thèse, comme je voulais arriver aux États-Unis, j'ai vraiment tout fait pour visiter différents États. Donc, à chaque fois que je soumettais un papier pendant ma thèse, j'essayais de soumettre un papier dans une conférence qui était dans une ville différente. Donc, je suis allé à Orlando, à Miami, à Pittsburgh, à Washington, D.C. En Californie, je suis allé à Santa Barbara. J'ai découvert que c'était une ville et pas uniquement un feuilleton. Pour ceux qui ont mon âge, on se rappelle de Santa Barbara. Et j'ai découvert donc toute cette diversité aux États-Unis. Moi, j'ai vraiment adoré. Et tu peux passer de la folie des parcs d'Orlando aux côtes de Californie, à la ville comme Washington où c'est très politique. Plus européenne, on va dire. Moi, j'ai adoré. Et Pittsburgh, c'est une ville où j'arrivais à m'identifier. C'était une ville qui n'était pas trop grande, qui était assez petite. Le coût de la vie était assez bas. Il n'y avait pas un haut niveau, un grand standard de vie, mais c'était bien. Il y avait des grandes universités. Moi, j'aime bien être près des proches des grandes universités parce que c'est là où tu vas avoir des étudiants, tu vas avoir des personnes qui vont bosser en tant que prof et compagnie. Donc, ça t'a un vivier après de start-up, d'entreprises qui arrivent. Le temps, il y a les quatre saisons. Ça me plaisait énormément. Tu vas dans les parcs, t'as les feuilles. C'est très joli. Et puis, pour être vraiment franc, c'est eux qui m'ont accepté après pour avoir un boulot. Donc, c'est là où je suis allé. Et en fait, après, j'ai commencé à vraiment adorer cette ville. Mais c'est une ville qui est, je pense, vraiment sous-estimée. Pittsburgh, c'est un peu l'est de la France, mais au niveau américain. Ça a été délaissé. Mmh. Après, ils ont su rebondir. Alors que l'est français n'a pas vraiment su rebondir. Mmh.
Est-ce que tu peux me parler un peu de cette période justement où tu allais dans tous les coins des États-Unis pour ta thèse? Est-ce qu'il y a un endroit qui ressort, qui t'a particulièrement marqué ou que tu aimerais raconter?
Pas vraiment. En fait, le problème, c'est qu'aux États-Unis, quand tu n'as pas de voiture, c'est un peu la galère.
Ouais.
Donc en fait, quand je voyageais, je n'avais pas vraiment de voiture. Ce n'était pas évident pour moi. Et donc... Les seuls vraiment endroits où je suis allé pendant ma thèse, c'était plutôt Orlando, par exemple, Miami. Il n'y avait pas vraiment besoin de voiture. Mais Miami, c'est pas l'endroit le plus sympa. Je pense que c'est beaucoup de personnes qui vont en soirée ou beaucoup de retraités. Ça m'a pas beaucoup plu. Donc, mis à part Pittsburgh, je n'avais pas vraiment trouvé d'endroit que j'adorais. J'avais beaucoup aimé Santa Barbara. C'était vraiment sympa. Mais après, je ne me voyais pas y vivre parce que c'était assez petit. Je n'avais pas vraiment de travail pour tout ce qui est tech, pour une université. Donc, je n'avais pas vraiment ça. Après, il y a des endroits, je peux en parler après, quand j'ai habité aux États-Unis, il y a des endroits qui m'ont marqué. C'était des endroits magnifiques. Tu regardes les différents paysages que tu as, tu as vraiment des endroits magnifiques.
Bon, on va en parler un peu tout à l'heure. Ouais. Comment tu as fait alors pour immigrer finalement? Parce que ça t'a pris plusieurs années et tu as tout fait pour retourner à Pittsburgh.
Ouais.
Est-ce que tu peux me raconter cette période?
Alors, j'ai tout fait pour retourner aux États-Unis avant tout. Et en fait, Pittsburgh, parce que je connaissais des gens qui étaient là-bas. Et en fait, en 2008, je suis arrivé, je suis resté 3 mois. Et ma mission après, c'était de pouvoir revenir et vivre aux États-Unis. Et à l'époque, je faisais une thèse. J'ai très bien compris que la carrière universitaire, c'était pas du tout pour moi. C'était très politique, ça ne savait pas du tout me plaire. Et donc, j'ai pris un travail en attendant à l'Agence spatiale européenne. Donc, l'Agence spatiale européenne, il y a un certain prestige qui est associé à ça. Et donc, du coup, je me suis dit que j'allais m'appuyer sur ce prestige-là pour avoir un travail aux États-Unis. Donc, j'ai pris le travail à l'Agence spatiale européenne. Et puis, après, tout le temps, j'essayais d'avoir des boulots et ça marchait pas. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que après tous les mois, absolument tous les mois, j'envoyais un email aux personnes que je connaissais. Je disais, est-ce que vous avez un travail ? Et tous les mois, j'ai renvoyé un email et j'avais jamais de réponse. Mmh. Et alors après, j'ai essayé, tu vois, la loterie, c'est différents systèmes, mais ça n'a jamais marché.
Et ça a pris combien d'années en tout ?
Ça a pris 2 ans et demi.
Ok.
Ah, ça a pris du temps. Mais c'est comme, après on va y revenir, c'est comme quand tu fais une boîte, il ne faut jamais perdre espoir. Mmh. Tu sais que ça va se passer, mais il faut attendre et il faut prendre son mal en patience. Donc pendant 2 ans, j'envoyais des emails tout le temps, est-ce que vous avez du travail ? Et puis un jour, la personne qui m'avait invité m'a dit... on ouvre un poste et candidate. Donc j'ai candidaté, ça s'est bien passé et je suis arrivé. Et moi j'avais préparé ça depuis 2 ans. Moi dans ma tête, je n'achetais pas beaucoup de choses parce que je savais que j'allais partir. Donc j'avais 2 grosses valises qui étaient prêtes à partir. Mm. Donc j'avais pas un appartement avec beaucoup de choses. Je me suis vraiment projeté et planifié comme quoi j'allais partir. Ça pouvait pas ne pas marcher. Il y avait pas de solution. Enfin, c'était pas possible. Donc après 2 ans, bah effectivement, 2 ans et demi, effectivement, j'ai eu le visa. J'ai eu un visa H-A-B. Je me rappelle du jour où j'ai reçu mon passeport avec le visa. pour moi, c'était le plus beau jour de ma vie. Je savais pas si c'était vrai.
Pas compliqué à avoir en plus. Il y a une, non seulement il faut être choisi, il y a une loterie après ça.
Ouais, alors je me rappelle plus exactement parce qu'en fait, quand j'étais embauché, ils ont pris un avocat.
Okay.
Et l'avocat gère tout pour toi. Donc j'ai vraiment eu de la chance parce qu'après, j'ai eu un avocat. Et puis je savais que j'allais rester. Donc j'ai eu un avocat pour faire le H1B. Et puis en fait, dès que je suis arrivé, je suis allé voir mon employeur et j'ai dit. Bon, la green card, on commence le processus.
Ah ouais, t'as pas perdu de temps, quoi.
Et ils m'ont dit, on va attendre 6 mois pour voir que ça se passe bien. Mm-hmm. Et on a attendu 6 mois et on a commencé le processus de la green card. La green card est arrivée, il me semble, 2 ans après, quelque chose comme ça. Mm-hmm. 2 ans ou 2 ans et demi après. Donc et puis après, la citoyenneté, enfin, bon, maintenant je suis citoyen américain.
Et comment tu décrirais ce changement de vie ? Parce que pour toi, ça avait pas l'air très difficile parce que t'avais déjà tout prévu, t'es arrivé ici. Pour trouver un logement, pour t'accommoder à ce nouveau mode de vie. Comment ça s'est passé ?
Tu sais, j'avais déjà voyagé beaucoup de fois aux États-Unis, donc c'était assez simple le changement parce que je connaissais les modes de vie, comment ça marchait. Pittsburgh, j'y étais allé plusieurs fois, donc je savais, je connaissais les différents quartiers, ça c'était pas bien dur. À l'époque, pour trouver quelque chose à louer, on n'avait pas Airbnb. Il y avait quelque chose qui s'appelait Craigslist, où tu avais beaucoup d'arnaques.
Ouais, c'est le gros problème de Craigslist.
Non, mais c'est clair. Et donc j'avais trouvé quelque chose sur Craigslist qui était dans un coin qui craignait, mais j'avais pas beaucoup d'argent à l'époque. Et du coup, j'ai trouvé ça et ça m'a permis de démarrer. Et puis après 3 mois, en fait, quand je suis arrivé, je logeais avec des étudiants. Et donc, il y a un moment quand tu as 30 ans, à l'époque, oui, j'avais 30 ans, quand tu vis avec des étudiants, y a une différence de culture, enfin, tu n'as pas les mêmes attentes. Mmh. Et donc, ce qui s'est passé très rapidement, c'est que je suis parti, au bout de 3 mois, je suis parti autre part, et puis là, après, j'ai commencé à acheter des maisons, et on va en parler, enfin, j'ai commencé à aussi créer des sociétés d'immobilier, aux États-Unis.
Je veux bien que tu m'en parles. À partir de quand est-ce que tu as fait ça ? Et comment c'est passé ? Est-ce que tu as fait tout ça avec des économies ?
Ouais.
Donc, ce qui est assez dingue, alors que tu venais d'arriver ici en plus. Est-ce que tu veux me raconter un peu cette histoire ?
Alors, déjà, moi, je ne viens pas d'un milieu vraiment... je viens d'un milieu aisé. Enfin, ma mère était, comme je l'ai dit, un site. Et puis, mon père travaillait à l'URSSAF. Donc, c'était des personnes qui travaillaient en tant que fonctionnaires. Donc, je ne venais pas forcément d'un milieu aisé. Par contre, j'ai eu de la chance d'avoir une très bonne éducation. Donc, mes parents m'ont très bien éduqué et ma mère m'a vraiment poussé à faire des études. Et donc, du coup, quand je travaillais à l'Agence spatiale européenne, j'avais pas mal, enfin, j'avais un salaire de 5 000 euros par mois. Et donc, ça m'a permis de faire des économies. Et donc, quand je suis arrivé aux États-Unis, j'avais, il me semble, à peu près 50 000 euros en banque. Mmh. Et en fait, au début, bah, j'étais avec des étudiants et puis ça ne m'a pas plu. Et après, j'étais en colocation avec un Américain et il invitait des gens tout le temps, il buvait beaucoup. Ça, assez rapidement, ça m'a un peu saoulé. Mmh. Et je me suis dit, bah, dans ce cas-là, j'ai 30 ans, autant acheter ma propre maison. Et là, j'ai commencé à regarder les maisons qu'il y avait autour de moi et j'ai trouvé que tu avais des quartiers où justement l'immobilier n'était pas cher. Et donc, souvent, les gens vont te dire qu'il y a de la violence, que ce n'est pas sûr. Et en fait, quand tu regardes les données, ça va. Il n'y a pas forcément de la violence. Alors, parfois, tu as un gang qui se shoot une fois par an. Mm-hmm. Mais ils restent entre gangs, ils ne vont pas venir te voler.
Ouais.
Donc, et en fait, tu vas aussi avoir une expansion sur une ville comme Pittsburgh qui se développe. Tu vas avoir une expansion de la population. Donc, les quartiers qui sont, qui sont considérés comme pas sûrs, bah, à un moment, les gens vont commencer à venir ici parce que la population s'étend. Et puis, ça va devenir des quartiers sûrs. Ça va se développer. Mmh. Tu as entendu parler sûrement de tout ce qui est gentrification. Enfin, c'est un terme qu'on utilise aux États-Unis. Et du coup, moi, j'avais vu des maisons pas chères. Donc, quand je dis pas chères, c'est des maisons à l'époque. Ma première maison, je l'ai achetée 37 000 $.
Mmh. C'est vraiment pas cher.
Bah oui, c'est vraiment pas cher. Et c'était une maison avec trois chambres. Donc, trois chambres, il n'y avait pas le garage à l'époque, mais c'était vraiment une maison complète. Et donc, avec 37 000 $, j'ai pu l'acheter en cash. Donc, j'ai pu acheter avec mes économies la maison. Et après, j'ai commencé à la retaper moi-même. Et à partir de là, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de maisons qui n'étaient pas chères et que je pouvais louer. Donc, j'ai acheté les maisons et je les ai retapées moi-même. Et à chaque fois, j'ai fait ça avec mes économies. Donc, j'ai économisé énormément. J'ai jamais vécu, j'ai jamais eu un train de vie important. J'ai pas été éduqué comme ça, ce sont pas mes valeurs. Donc, j'ai pas mal économisé quand je suis arrivé aux États-Unis parce que j'étais très bien payé. Et puis, j'ai mis ça en investissant dans des maisons que j'allais louer. Donc, j'ai fait ma première maison. J'ai acheté ma première maison à 37 000 $. J'ai retapé la maison. Je l'ai revendue un an après, il me semble, dans les 80 000, 90 000, quelque chose comme ça. J'en ai racheté une deuxième que j'ai revendue plus tard. Et entre-temps, j'ai acheté plusieurs maisons et puis que j'ai louées. Mais tout ça, en fait, c'est quelque chose que j'ai fait uniquement par économiser et puis après avoir fait les travaux moi-même. Il y a beaucoup de week-ends où je suis resté dans mes maisons et puis j'ai fait de la peinture, de l'électricité, du placo.
Et c'était quoi l'état de ces maisons? Parce que quand je pense à des villes comme Détroit par exemple, il y a des en tout cas à l'époque, il y avait des maisons qui n'étaient pas chères du tout, mais il fallait tout refaire, quoi. Il fallait limite la détruire pour en reconstruire une. Là, pour 37 000 $, qu'est-ce que tu obtenais?
Pour 37 000 $, j'avais une maison où tu pouvais, où en gros, pour être vraiment franc et te donner l'état de la maison, le toit était viable, les fondations étaient viables, tu avais quelqu'un qui avait arrêté de payer le prêt et qui avait des chiens qui n'entretenaient pas la maison. Donc, en gros, les chiens, tu peux imaginer ce qui arrivait sur la moquette, ce n'était pas terrible. La personne buvait énormément, donc tu avais... il y avait les mains qui sont posées sur le mur plusieurs fois, mais ça, c'est que de la peinture. Donc, tu as une maison qui était quand même très viable. Après, il faut que tu remplacer les meubles de cuisine, par exemple. Mettre, des nouveaux, ce qu'on appelle les appliances. Donc, aide-moi avec le langage.
Mais, machine à laver. Voilà. Cuisinière, voilà. Etc.
Donc,
sont fournis aux États-Unis, ce qui en France, ce n'est pas toujours le cas, mais c'est vrai qu'aux États-Unis, il y a toujours la cuisine complète avec le frigo, etc.
Exactement. Et donc, moi, là, sur une maison comme ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repeint complètement la maison, j'ai enlevé la moquette, j'ai reposé du parquet, et puis c'est à peu près tout. J'ai peut-être changé deux, trois fenêtres, et puis ce que j'ai dit avec la machine à laver, et puis le lave-linge, mais c'est tout. Et j'ai une maison. Viable assez rapidement. Et même à Détroit, en fait, si tu regardes Détroit, tu as des maisons, je suis d'accord avec toi, tu as des maisons qui ne sont pas forcément viables, mais si tu regardes, tu as aussi des maisons qui, avec assez peu d'investissement, peuvent être viables. Mmh. Ça a beaucoup marché, surtout après 2008. Je regarde après même encore parfois Détroit ou Pittsburgh, les prix ont augmenté, mais tu as encore des opportunités.
Et c'était quoi l'idée pour toi derrière ça? Parce que, est-ce que tu avais toujours voulu faire de l'immobilier? Est-ce que tu étais intéressé par l'investissement en général? Ou c'est juste tu as vu des maisons, tu te dis tiens, c'est cool, ça va m'occuper de les retaper. C'est quoi l'idée derrière tout ça?
Il y a beaucoup de choses que j'ai fait, j'avais aucun plan. Mmh. Moi, faire de l'immobilier, alors déjà, je suis un très mauvais propriétaire. Uh-huh. Là, ça fait 3 ans que je n'ai pas augmenté les loyers. Donc, je ne suis pas forcément pointilleux sur qui paye le loyer et quand. Donc, mmh. Ça n'a jamais été mon truc d'être vraiment un mania de l'immobilier. Par contre, j'ai vu une opportunité. Et je pense que quand tu vois une opportunité comme ça, il faut la saisir. Mmh. Donc, j'ai toujours voulu aussi faire mon propre business et être maître de ma destinée. Donc, quand j'ai vu cette opportunité, je me suis dit que c'était vraiment bien. C'était une opportunité après peut-être d'arrêter de bosser ou peut-être de faire d'autres choses. Mmh. C'est ce qui m'a permis, par exemple, après de faire une start-up. Donc, quand je faisais une start-up, les revenus des appartements me payaient mon salaire. Mmh. Mais jamais j'ai eu cette idée de ça va être le but de ma vie. Non, j'ai fait ça parce que j'ai vu une opportunité, j'ai trouvé que c'était cool et que ça pouvait être intéressant de faire ça. Après, je suis tombé amoureux de la ville de Pittsburgh et j'ai eu aussi envie de redonner à cette communauté, de redonner à la communauté. Donc, en achetant les maisons, j'ai aussi participé à améliorer le voisinage. Mmh. Donc, il y a des rues où je dois avoir 3 ou 4 maisons. Donc, tu essayes d'entretenir les maisons, tu essayes que le voisinage il soit, que tout se passe bien entre les différents voisins. Donc, tu essayes aussi de faire en sorte que ça se passe mieux, d'améliorer la situation.
Donc, en quelque sorte, puisque Pittsburgh t'a accueilli, tu as envie de rendre un peu l'appareil à la ville et d'investir dans la ville plus que juste faire de l'investissement immobilier.
Oui, bien sûr. Mais même au niveau des États-Unis, moi, mon cœur, il est plus aux États-Unis qu'en France. Mmh. Je me sens plus connecté avec les États-Unis qu'avec la France. Depuis que je suis parti de la France, je ne vote plus en France. Par contre, je vais voter aux États-Unis. Je me sens beaucoup plus impliqué dans ce pays-là. Ce pays m'a énormément donné. La France m'a aussi énormément donné. Je peux pas dire le contraire. Mais aujourd'hui, le succès que j'ai eu en termes de boîte, mon succès professionnel, est lié aux États-Unis.
Mais qu'est-ce qui t'a fait quitter Pittsburgh alors pour aller chez Amazon?
Alors, mon rêve, donc j'en avais marre de l'université. Ça me plaisait pas et je n'allais pas faire carrière. C'était bien parce que j'ai pu avoir une card. Je suis vraiment reconnaissant aux personnes qui m'ont fait venir, mais je savais que sur le long terme, c'est pas ce qu'allait marcher.
Et donc, une fois que tu as une carte, tu peux juste partir et faire ce que tu veux finalement.
Ouais. Alors, il faut juste avoir la green card. Ça prend un peu de temps, mais une fois que tu as la green card, tu peux aller où tu veux. Alors, quand tu es en visa enchimbé, si tu te fais virer, tu as 2 mois pour retrouver du travail. Donc, c'est différent. Et donc, ce qui m'a fait partir de Pittsburgh, au début, je ne voulais pas partir de Pittsburgh. Et moi, mon rêve, c'était de bosser pour Duolingo. Donc, si tu connais Duolingo, c'est l'app qui t'aide à parler d'autres langages. Mm-hmm. Et moi, j'avais écouté l'histoire du fondateur, j'ai trouvé ça génial. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser aussi aux startups. Et donc mon rêve c'était de bosser à Duolingo.
Qui est basé à Pittsburgh d'ailleurs.
Ouais. Oui. Oui, voilà, exactement. Je suis désolé. Donc Duolingo, ça commence à Pittsburgh. Et donc moi je voulais vraiment bosser là-bas. Et pour me préparer à bosser à Duolingo, j'ai passé des entretiens pour Facebook, Amazon et Google. Mm-hmm. J'ai rien eu, sauf Amazon. Et donc au début, je me suis dit que j'allais pas prendre le job à Amazon. Et en fait, pour donner aussi aux auditeurs un ordre de grandeur des salaires, quand tu es en France, au niveau que j'étais, je pense que j'aurais pu gagner 3-4 000 euros par mois, quelque chose comme ça. Aux États-Unis, quand je travaillais dans l'académie, enfin à l'université, j'étais payé 110 000 dollars par an. Et quand je suis arrivé chez Amazon, Amazon m'a proposé, il me semble, un salaire complet entre les stocks, le base et tout, qui était à plus de 300 000. Donc, à partir de là, je suis parti à Seattle parce que il y avait deux aspects. C'est que d'une, au niveau financier, c'était une opportunité énorme pour moi. Et après, deuxièmement, travailler pour Amazon Web Service. Donc, Amazon Web Service, pour ceux qui ne savent pas, c'est toute la plateforme qui héberge la majeure partie des sites web. Amazon, aujourd'hui, il y a la boîte qui vend des choses sur Internet, mais aussi Amazon Web Services, qui est une entreprise qui fait énormément de revenus et qui fournit des services Internet. Et travailler chez Amazon Web Services, c'était pour moi une opportunité. C'était vraiment une opportunité énorme. Donc, du coup, je suis parti de Pittsburgh. J'ai gardé mes maisons. J'ai gardé tous les projets immobiliers. Mais là, je suis parti de la ville en 2017.
Et quand tu dis 300 000 entre le salaire, stocks, etc., ça veut dire que les boîtes de tech te donnent un salaire plus des actions dans l'entreprise ?
Ouais. Alors, ce qui se passe, c'est que quand tu es employé dans les entreprises de technologie, en général, ton salaire, il a trois composants. Tu as ce qu'on appelle la base. Donc, la base, c'est ce que tu as de base. Enfin,
salaire net.
Voilà, exactement. Ensuite, tu as des actions qui te sont données. Et en général, ces actions, elles te sont données tous les trois mois. Sauf la première année. La première année, il faut que tu attendes un an. C'est-à-dire qu'en fait, on regarde que ça se passe bien avec toi. Et au bout d'un an, tu as toutes tes actions. Après, c'est tous les trois mois. Et après, l'autre composant que tu as, c'est aussi le bonus. Et les salaires peuvent être vraiment très importants. Chez Amazon, mon base, il était à 160. Et après, tu avais les actions qui se rajoutaient. Puis, tu avais aussi un bonus, il me semble. Chez Twitter, c'est la même chose. Et surtout, en Californie, dans la tech, les salaires peuvent vraiment monter très, très haut.
Et par rapport à la qualité de vie de Pittsburgh, est-ce que ça reste quelque chose de très élevé comme salaire ? Parce que je sais qu'à San Francisco, par exemple, des fois, on est très bien payé, mais ça coûte tellement cher de vivre là-bas que finalement, c'est pas tant que ça. À Seattle, est-ce que tu considères que c'était beaucoup ?
C'est un peu compliqué parce que moi, à l'époque, quand j'étais à Seattle, je me suis pas vraiment installé à Seattle. À l'époque, en fait, j'étais avec quelqu'un et on cherchait à s'installer à Seattle. Elle n'a pas trouvé de travail, donc très rapidement, on est parti en Californie. Donc, je ne me suis pas vraiment installé à Seattle. Et puis, j'ai toujours eu un train de vie vraiment, vraiment bas. Je pense que... tu as déjà regardé le film Fight Club ?
Ouais.
Tu as une phrase de Tyler Durden qui te dit que les choses que tu possèdes finissent par te posséder. Je pense que c'est vrai. Et je pense qu'en fait, le plus tu accumules, le plus ça te possède. Donc, en fait, si tu as trop de choses, tu vas te penser à ces choses-là. C'est marrant, aujourd'hui, j'ai beaucoup de maisons à Pittsburgh et je ne possède pas de maison.
Parce que tu es locataire à New York en plus.
Oui, mais je n'ai pas de maison. Quand j'étais à Denver, je n'avais pas de maison. Quand j'étais à Seattle, je n'avais pas de maison. Quand j'étais à San Francisco, j'ai toujours loué. Et je pense que je n'ai pas vraiment envie d'avoir un train de vie important. Je pense que l'essentiel ne réside pas dans les possessions matérielles que tu peux avoir. Donc, je n'essaie pas du tout d'avoir ça. Par contre, je pense que je valorise plus les expériences que les biens matériels. Donc, du coup, je n'ai jamais vraiment eu un train de vie énorme. Et Seattle, ça allait encore. Par contre, San Francisco, c'est vrai que là, ça commence vraiment à être… San Francisco, rien que le loyer… Pour donner un exemple quand même en termes de niveau de vie, quand j'étais à Pittsburgh en termes de loyer, je devais payer dans les 600 dollars. Quand je suis arrivé à San Francisco et à la fin je louais à San Francisco, je payais, il me semble, dans les 3600 dollars par mois.
Ah ouais. Mais là, effectivement, bon, c'est pas la même.
Oui, mais aussi pour donner une différence en termes de salaire, quand j'étais à Pittsburgh, j'étais payé 110 000. Quand je devais être à San Francisco, je devais être dans les 700 000.
Ah oui, ok.
Donc,
ça aide, ouais.
Voilà, on n'est pas du tout sur les mêmes ordres de grandeur. Après, c'est vrai que c'est pas du tout les mêmes ordres de grandeur, c'est pas du tout le niveau de vie même à San Francisco est bien plus élevé. Donc même quand tu vas faire tes courses, quand tu vas au restaurant, c'est bien plus élevé aussi.
C'était comment travailler pour Amazon, parce que c'est quand même une des plus grosses entreprises du monde. C'est quoi l'ambiance là-bas? C'était quoi ton travail aussi?
Alors, quand je bossais chez Amazon, je bossais donc pour Amazon Web Services, et en fait, je m'occupais, j'avais une équipe et on s'occupait de tout ce qui était infrastructure des serveurs de stockage. Mm-hmm. Donc, tu as des serveurs qui stockent des données, aussi bien des bases de données que des fichiers audio, enfin n'importe quoi. Et donc, on s'occupait à gérer l'infrastructure, donc comment tu vas gérer la redondance des serveurs, comment tu décommissionnes des serveurs, enfin, toutes ces choses-là. Mmh. Et du coup, j'ai fait ça pendant un an, parce qu'après, je suis parti chez Twitter. Et Amazon, moi, j'ai adoré. Parce qu'en fait, Amazon, il se focalise vraiment sur le client. Mmh. C'est quelque chose qui est vraiment très... Enfin, c'est quelque chose que tu apprends quand tu es chez Amazon, c'est que tu commences par penser d'abord au client. Et après, tu réfléchis à comment le faire. Donc, par exemple, quand tu fais même une nouvelle fonctionnalité, même en interne, tu commences à réfléchir sur l'impact pour le client. Mmh. Et en fait, à partir de là, tu vois si l'amélioration pour le client, elle est marginale ou elle est importante. Et à partir de là, tu décides si c'est important et s'il faut faire un projet ou pas. Et ça m'a vraiment aidé à me focaliser sur le client. Je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises ou même de produits qui ne se focalisent pas assez sur le client. Donc ça, c'est la première... Tu as des choses comme ça. Après, Amazon, c'est vraiment une entreprise avec beaucoup de... Ce qu'ils appellent des principes. Tu as une liste de principes et des principes qui ne font pas forcément consensus. Par exemple, quand tu vas dans un meeting, tu n'as pas de slide. Tu ne peux pas utiliser les slides. Mm-hmm. C'est interdit. Tu n'as pas d'écran pour les projeter. Donc, ça te force à avoir une certaine rigueur intellectuelle, à écrire un papier, à organiser tes idées et à les présenter. Et tu as beaucoup de personnes qui, tu sais, vont faire des slides et après, au bout de 3 minutes, tout le monde dort, tout le monde s'en fout. Alors que là, on se focalise vraiment sur ce qui est important. Et moi, j'ai adoré Amazon pour ça. Ils n'hésitent pas, il n'y a pas vraiment de politique Amazon, enfin un peu parfois, mais pas tant que ça comparé à des grosses boîtes. J'ai vraiment, vraiment aimé mon temps chez Amazon.
J'imagine que c'est beaucoup de travail, mais on imagine aussi beaucoup les boîtes de tech comme cette nouvelle génération d'entreprises où on nous fait la lessive, on nous donne à manger, on peut jouer au ping-pong, ce genre de choses. Ouais. C'est quoi l'ambiance dans les bureaux d'Amazon?
Alors, Amazon, tu n'as pas vraiment ça. En fait, c'est marrant, mais Amazon, tu n'as pas le déjeuner offert.
Okay.
Tu dois payer. Et en fait, quand tu achètes ton déjeuner chez Amazon, tu vas chez Amazon pour l'acheter. Donc, tu as un supermarché Amazon pour acheter ton... par exemple, je ne sais pas si tu te souviens, mais il y avait des supermarchés où tu arrivais dans le supermarché et voyais ce que tu achetais et puis te décomptais. Ouais. Et ça, en fait, au début, les premiers supermarchés comme ça, ils étaient ouverts uniquement aux employés d'Amazon pour tester les supermarchés.
Okay.
Donc, Amazon, très peu de ça. T'as pas trop de ça. Tu as plus ça à Twitter ou à Facebook. Ouais. Donc, à Facebook ou Google ou Twitter. Quand parfois je venais avec des amis, ils me disaient « c'est une garderie pour adultes ». Surtout à Twitter, enfin, on avait tellement d'avantages. Moi, je trouvais ça choquant. J'ai eu du mal avec ça parce que beaucoup de personnes pensent que c'est un dû et du coup, ils voient ça et ils pensent que c'est normal. Pour moi, j'ai jamais pris ces avantages-là comme étant quelque chose de normal. Je pense que j'ai été énormément chanceux. Mmh. J'ai eu une très bonne éducation de par mes parents. J'ai été énormément chanceux. J'étais dans une période où c'était un peu l'âge d'or de la technologie. Les gens qui faisaient, qui bossaient là-dedans ont fait beaucoup d'argent et on a eu de la chance, mais c'est pas un dû. Les avantages qu'on a, c'était pas un dû. Que tu aies, alors après, ça dépend des boîtes où tu allais, mais nous, on avait petit déjeuner, déjeuner payé par l'entreprise. Quand tu allais chez Facebook ou Google, apparemment, parfois, tu avais des coiffeurs, ils te faisaient ta lessive, tu avais des salles d'arcade. Nous, on avait des salles d'arcade, on avait le barista qui faisait le café. Enfin, c'était. Moi, je pense que c'était même trop. Parce qu'en fait, après, tu as des employés qui, à chaque fois, pensent que l'employeur est là pour résoudre tous leurs problèmes. Je ne pense pas que ce soit sain. Enfin, moi, je ne pense pas que ce soit sain.
Après, on dit souvent que c'est aussi un moyen de vous faire rester plus longtemps dans l'entreprise et limite de dormir là, quoi. Est-ce que c'est quelque chose que tu as ressenti aussi ?
Alors, peut-être pour certaines personnes. Cela dit, si les gens restent au travail uniquement parce qu'on leur donne un dîner qui vaut 10$, je pense qu'il y a un problème de priorité.
Ouais.
Surtout quand tu gagnes des sommes, de telles sommes.
Parce que finalement, avec ce salaire-là, tu peux te payer à manger.
On est d'accord. Ouais. Mais après, tu as une génération de personnes qui ne savent pas. Moi, j'ai eu des collègues. Le soir, les personnes chez elles me disaient que tous les soirs, ils prenaient du DoorDash. Donc, DoorDash, c'est la livraison à domicile.
Ouais.
Donc, tous les soirs, ils dépensaient 30$ pour se faire livrer un McDo.
Ouais.
Et moi, c'est pas, enfin, moi, c'est pas du tout ma philosophie. Ça m'a pas, enfin, tous ces trucs-là m'ont pas vraiment plu. Par contre, il y a un aspect important. Comment discuter ce que tu gagnes, c'est un base, et après, t'as des actions.
Ouais.
Et en fait, à l'inverse, t'as envie de rester dans la boîte parce qu'en fait, si tout le monde travaille dur, les actions elles vont augmenter. Et là, par contre, là, tu as vraiment ça peut avoir un impact sur ton revenu. Et là, ce n'est pas uniquement 10$ de dîner que tu auras tous les soirs. Là, c'est beaucoup plus. Donc là, tu as des personnes, je pense, qui sont plus enclins à rester tard pour justement… Et ça, c'est plus vrai dans… C'est moins vrai dans les grosses boîtes. C'est plus vrai dans les startups.
OK. Donc, et c'est quoi qui t'a fait passer d'Amazon à Twitter, si on n'a pas eu le temps d'en parler ?
Alors, comme j'en parlais à l'époque, quand je suis arrivé à Seattle, j'étais avec quelqu'un qui cherchait un travail. Ça ne s'est pas bien passé. Et cette personne-là a trouvé un travail en Californie. Et donc, du coup, j'ai dû chercher du travail en Californie. Twitter, à l'époque… Donc, si tu te souviens, au début, mon rêve, c'était d'aller à Duolingo. J'avais interviewé pour… Et en fait, interviewer pour bosser dans la tech, c'est comme aller à la gym, c'est un muscle.
Ouais.
Donc, la première fois, quand j'ai fait Duolingo, Amazon, Google et Facebook, j'ai eu aucune offre, enfin, celle d'Amazon, c'est tout. Mm-hmm. Par contre, quand un an et demi plus tard, j'ai cherché du travail, là, j'ai eu des offres chez Slack, Facebook et Twitter.
Ah ouais. Et ça s'est passé comment, le processus de recrutement ? Si apparemment, il y a plein d'interviews différentes ?
Alors, oui, tu as plein d'interviews, mais c'est exactement comme aller en école prépa. C'est du bachotage.
OK.
Donc, en fait, il faut que tu connaisses quoi dire à quel moment. Et en fait, tu as même des travails… tu as même des livres qui sont écrits par des personnes qui travaillent dans ces entreprises-là pour te dire comment répondre aux questions. Donc, c'est du bachotage, c'est purement du bachotage. Et quand j'ai fait… Quand je suis allé chez Amazon, j'ai appris comment ces interviews se passaient. Et donc, j'ai acheté les bouquins. Je les ai étudiés pendant 2 ou 3 mois. Donc, après, quand je suis arrivé aux interviews, j'avais aucun problème. J'étais prêt. Je connaissais les codes du métier.
Ouais, c'est
très simple pour moi. Donc, du coup, après, je suis arrivé chez Twitter. C'est comme ça que je suis arrivé chez Twitter. Et je suis resté chez Twitter 3 ans.
OK. Et malgré ça, malgré le salaire assez vertigineux et la place qui peut faire rêver beaucoup de gens qui veulent bosser dans la tech,
ouais.
Tu as préféré partir pour monter ta boîte. C'était quoi ta motivation ? Pourquoi tu as voulu quitter San Francisco ?
J'ai toujours… alors, il y a pourquoi faire la boîte ? Il y a 2 questions là-dedans. Il y a pourquoi faire la boîte et pourquoi partir ? Mmh. Alors, la première chose, c'est pourquoi faire une boîte ? J'ai toujours rêvé, moi, mon rêve, ça a toujours été d'être libre et de faire mon propre truc. Et de faire une boîte, ça m'a toujours plu. C'était vraiment ce que je voulais faire. Et en fait, pendant très longtemps, j'ai eu très peur de m'y coller. Et il y a un moment, je me suis dit, si tu le fais pas, tu vas le regretter toute ta vie. Mmh. Et en fait, j'ai réalisé à un moment qu'il fallait que je me lance et que tu as beaucoup de gens qui se projettent et qui se disent « Ah, si jamais X, je pourrais faire ça. » Et en fait, en général, c'est des gens qui n'ont juste pas le courage de faire les choses. Mmh. Ils n'ont pas le courage de… Et je ne dis pas que c'est évident et je ne dis pas que c'est facile, mais à un moment, il faut voir la réalité en face. Et moi, je n'avais pas envie… qu'à 60 ans, je regrette de ne pas avoir fait les choses. Et donc, du coup, quand j'étais à San Francisco, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, dans ma vie personnelle, les choses ne sont pas allées comme je le souhaitais et je me suis séparé de la personne avec qui j'étais. Je me suis dit que c'était le bon moment pour vraiment créer une boîte. Mm-hmm. J'ai loué une chambre dans le sous-sol d'une maison dans le Castro. Donc le Castro, c'est un quartier au centre de San Francisco, là où tu as la communauté gay. Okay. Je pense que j'étais le. C'était vraiment intéressant en plus d'habiter dans ce quartier-là. C'était pas très loin de Twitter, c'était à 10 minutes à pied. Mm-hmm. En fait, je suis allé dans le sous-sol pour minimiser mes coûts, pour investir dans la boîte. Ouais. Pour monter la boîte et être à côté de Twitter. Donc en fait, quand je travaillais chez Twitter, l'argent que je gagnais, j'investissais, je mettais ça dans la boîte et dans l'immobilier. Et l'immobilier, okay. Après, m'a donné des retours. Mais ma vie, c'était me lever à 6 heures du mat pour aller courir, pour aller après chez Twitter et revenir tôt le soir pour bosser sur la boîte.
Ah ouais.
Et donc après, j'ai fait ça pendant 2 ans. Mmh. Et là, la pandémie arrive. T'as le Covid qui arrive. Et le Covid, quand le Covid arrive, c'est au moment où t'as eu des émeutes aux États-Unis et à San Francisco en Californie. C'était un peu spécial. C'est-à-dire que t'avais des boutiques qui se faisaient piller. San Francisco a eu beaucoup de problèmes. Moi, j'ai eu un collègue qui s'était fait tirer dessus en pleine rue à 7h du soir. J'ai trouvé des morts sur mon trottoir quand j'habitais à San Francisco et pendant le Covid, tout était fermé. Donc, c'était devenu assez morose.
Ouais, donc, j'imagine. Ouais.
D'une, ça, je ne voulais pas rester à San Francisco avec le climat qu'il y avait. Ouais. La deuxième chose à laquelle j'ai énormément... dans laquelle je crois énormément, c'est je pense que les États-Unis, tu as une richesse culturelle et qu'aujourd'hui, tu n'as rien qui t'empêche de faire une start-up ou une société dans d'autres endroits que San Francisco. Je pense que San Francisco, c'est un espèce de petit microcosme. San Francisco, c'est un peu à la Tex que Paris est à la France. Donc, c'est un petit microcosme de gens qui sont dans la tech. Et moi, je pense que tu peux faire une très bonne boîte avec des personnes qui ne sont pas forcément dans cette tech-là, qui vont te donner aussi, ces personnes-là vont te donner une perspective qui va être différente. Et du coup, j'ai quitté San Francisco. Potentiellement, je pouvais aller à Salt Lake City, je pouvais aller à Denver, je pouvais aller à Austin. Mm-hmm. Et Austin, il faisait trop chaud. Salt Lake City, il y a une influence religieuse qui n'était pas forcément ce que je voulais avoir. Et Denver, ouais. Ça me plaisait beaucoup. Tu as les montagnes, je cours aussi beaucoup. C'est très connu dans la communauté de la course à pied. Donc, Denver, c'était... voilà.
Ces différents choix, c'était pourquoi ? C'était parce qu'il y avait des investisseurs là-bas ?
Non, pas du tout. C'est juste les villes que j'ai regardées sur la carte et qui me plaisaient.
Okay.
Je te dirais aujourd'hui, donne-moi le top 3 des villes où tu veux aller habiter. Et puis... tu vas me sortir une liste de villes. Moi, c'est un peu ce
mais il
n'y
avait
passé.
Pas Pittsburgh dans cette liste. C'est pour ça que je me pose la question.
Alors, en fait, Pittsburgh, la raison, comme je le disais, d'un point de vue personnel, dans ma vie, j'étais avec quelqu'un, on s'est séparés. Mmh. Et Pittsburgh, c'est là où on s'était rencontrés. Et en fait, à l'époque, quand t'as des problèmes, enfin, quand tu te sépares de quelqu'un comme ça, il y a un moment où tu dois te remettre de ce choc. C'est un choc qui se passe pour toi. Et donc, en fait, j'avais pas envie de revenir, parce que dans ce cas-là, c'était revenir sur le passé.
Ouais, je vois.
Et en fait, aujourd'hui, je vais de nouveau à Pittsburgh parce que maintenant, il y a plus de blessures. Hein. Mais à l'époque, je quittais mon boulot, je créais une boîte et un an et demi avant, je me séparais de la personne avec qui j'étais très bien. Donc, il y avait beaucoup de choses en même temps. C'est pas forcément quelque chose qui est évident à gérer d'un point de vue psychologique. Et il vaut mieux que tu t'installes sur un nouveau territoire, quelque chose qui est nouveau.
Ouais, je comprends.
Et donc c'est pour ça que je ne suis pas retourné à Pittsburgh. Je n'avais pas envie de retourner dans le passé.
Donc, nouveau départ à Denver, donc.
Ouais.
C'était quoi cette entreprise, en fait, parce qu'on en parle beaucoup depuis le début. C'est quoi le pitch, en gros?
Le pitch, en gros, c'est avoir un correcteur orthographique, mais pour le code. Donc, okay. Tu écris du code et peu importe où tu écris du code informatique, on détectait quand tu faisais une erreur et on te suggérait des fixes, donc des corrections. Un peu comme le correcteur orthographique. Alors, il y a un correcteur orthographique qui est un peu plus avancé qui s'appelle Grammarly. Mm-hmm. Et nous, on était un peu le Grammarly pour le code.
Je vois. Et tu m'avais dit aussi plus tôt que ce n'était pas forcément la première idée, qu'il y a eu beaucoup d'échecs avant ça. Est-ce que tu peux me raconter un peu ce processus de création?
Ouais, alors en fait, quand tu démarres une boîte, et puis surtout au début, moi j'ai fait énormément d'erreurs, je ne connaissais rien du tout, enfin je ne connaissais rien en start-up, je ne savais pas comment lever des fonds, je ne savais pas comment faire un produit, j'étais vraiment ignorant. Et donc on a commencé avec un produit et après on a évolué. Alors la manière dont tu vois les choses, et c'est là où Amazon m'a énormément appris, c'est que tu parles aux utilisateurs, aux personnes qui payent. Donc tu vas leur parler et puis tu vois ce qu'ils te disent et quels sont leurs besoins. Et ça, c'est vraiment la culture Amazon qui m'a aidé. Cela dit, les gens en général ont tendance à mentir. C'est-à-dire qu'en fait, les gens te disent ce que tu veux bien entendre. Et du coup, il faut que tu te forces, quelque chose que j'ai appris, c'est à se forcer à essayer d'avoir des proxys pour voir quelle est la vérité. En fait, quand tu vas faire une boîte, il faut vraiment que tu regardes la vérité en face. Peu de gens ont cette honnêteté intellectuelle. Mais en fait, il faut vraiment que tu arrives à voir au moins ce que les gens veulent et quelle est la vérité. Et en général, c'est là où il ne faut pas vraiment faire de compromis. Il faut vraiment essayer de voir les choses. Donc en fait, d'un point de vue concret, c'est que quand tu vas développer un produit, ce que tu vas essayer de faire, c'est de voir si les gens sont intéressés. Donc, si on prend un site web ou un produit informatique que tu utilises, on va regarder combien de fois les gens l'utilisent. Est-ce qu'ils reviennent ? Une métrique qu'on a quand on construit dans la startup, enfin dans le monde des startups, c'est ce qu'on appelle la rétention. C'est-à-dire qu'en fait, si à la semaine 1, tu as 100 personnes, on regarde à la semaine 5 ou à la semaine 6 combien de personnes sont restées. Si tu as 50 personnes qui restent à la cinquième, après 5 semaines, ça veut dire que tu as perdu 50% des gens, ce qui n'est pas si mal. Mais bien souvent, tu as des startups qui ont une rétention à 4 semaines à 1%. C'est-à-dire que les personnes commencent à utiliser le produit, ils y vont, et en fait, la deuxième semaine, ils y retournent pas.
Ouais.
Si tu leur demandes, est-ce que mon produit est bien, ils vont te dire, waouh, ouais, c'est génial. Mais en fait, quand tu regardes les vraies données, ils ne l'utilisent pas. Une société, alors après, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais par exemple, à Twitter, alors ça, par contre, c'est vrai, je vais en parler, mais à Twitter, quand j'étais chez Twitter, on regardait l'engagement sur les différents produits qu'on avait. Donc, tu fais un changement, tu changes le logo, tu changes la couleur, tu changes la taille des tweets ou des trucs comme ça. Tu vas regarder si les personnes sont plus engagées ou pas. Facebook, il me semble, mais ça, encore une fois, je n'ai pas travaillé chez Facebook, donc je ne peux pas confirmer, mais il me semble que Facebook ont vraiment développé une infrastructure qui te permet de voir que chaque changement de code augmente constamment le niveau d'engagement. Et fait que ton produit va être mieux. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Et c'est comme ça qu'on a décidé de changer le produit en fonction des métriques des utilisateurs. On essaie de regarder ce que les utilisateurs voulaient et de changer le produit en fonction de ça. Mais c'est quelque chose qui m'a pris énormément de temps à apprendre. C'est vraiment pas évident. J'ai lu beaucoup de livres. J'ai passé beaucoup de nuits et de journées aussi à apprendre ça.
J'imagine que c'était pas facile de faire tout ça.
Ah non, c'est... Faire une startup, c'est extrêmement dur. Tu travailles tous les jours, le week-end y compris. T'as pas de vie sociale. Et puis t'as géré tous les problèmes. Les problèmes légaux, les problèmes de HR, embaucher les bonnes personnes, virer les bonnes personnes. Parce que quand t'as fait de la mauvaise embauche, tu gardes pas les gens, tu vas les virer. Surtout quand tu démarres une entreprise, si tu renvoies des gens et que c'est de ta faute, ce qui a été le cas de ma part quelquefois, il faut que tu dises aux personnes, je suis désolé, ça s'est mal passé. Et en général, c'est marrant, mais les gens comprennent. Si tu viens et tu as de l'empathie et tu essayes de dire que c'est de ta faute, les gens comprennent en général. J'ai jamais vraiment eu de problème de ce point de vue-là. Mais effectivement, c'est pas du tout évident.
Et comment ça se passe pour lever des fonds? Parce qu'on a cette image de la Silicon Valley où tu vas recevoir des milliers de dollars comme ça avec ce qu'ils appellent les VC, les venture capitalists. Comment ça s'est passé pour toi?
Au début, alors moi je connaissais pas du tout ces codes-là. Moi, encore une fois, je suis quelqu'un qui vient de la Normandie profonde, et du coup je connaissais pas du tout ça. Après, je suis arrivé j'ai bossé dans la tech, mais je connaissais pas du tout les codes les codes pour lever des fonds. Et en fait, au début, j'ai commencé à Denver. Et à Denver, la communauté pour investir, elle est presque pas existante du tout. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai collecté des adresses e-mail d'investisseurs. J'ai vraiment fait des recherches partout pour avoir des e-mails d'investisseurs et demandé des introductions. À la fin, j'ai eu 200 meetings. Donc, ça a fait beaucoup de meetings sur Zoom. À l'époque, on est au Covid. Donc, ça fait au moins 5 jours, 200 meetings, 30 minutes par meeting. Ça va te faire déjà 100 heures. Ça te fait à peu près 5 jours complets. Après ça, parfois, tu as des follow-up. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Mais ça n'a pas marché. Et en fait, là où ça va vraiment marcher, là où j'ai vraiment commencé à avoir où j'ai eu des investisseurs qui se sont mis, c'est quand j'ai pris ma voiture, je suis allé à San Francisco directement et j'ai rencontré les gens. Je pense que c'est là... C'est un point important, c'est que rien ne remplace le contact humain. Tu vois la personne voit la conviction. C'est-à-dire que quand tu dis, quand tu vas voir les gens et tu leur dis « cette boîte va marcher, je connais le domaine », voilà, en général, ils commencent à te croire c'est plus convaincant de te voir en personne que de te voir sur Zoom. Et quand je suis arrivé à San Francisco, je suis allé pour lever des fonds assez rapidement. J'ai eu des chèques qui sont arrivés. À la fin, on a fait une levée de fonds. On a levé un peu plus de 2 millions de dollars de fonds. Et après, ça s'est bien passé. Mais ça m'a pris 6 mois à comprendre comment lever des fonds.
Ouais. Mais quand même, pour réaliser, pour les gens comme moi et les gens qui nous écoutent, c'est des sommes qui sont énormes. Comment tu fais? Tu te retrouves face à quelqu'un et il te dit « je te donne des centaines de milliers de dollars ». Est-ce que pour eux, c'est un chiffre comme ça qui te sort facilement ou il faut vraiment réussir à les pousser?
Mais en fait, ça dépend. Parfois, ça dépend parce qu'en fait, ça dépend c'est quoi l'opportunité pour eux. C'est-à-dire que eux, ils veulent, enfin, les investisseurs, ils vont parier que tu vas être le nouveau Google. Et là, le retour, il va être vraiment très important pour eux. Donc la question, c'est est-ce que toi, t'es potentiellement, et surtout un stage comme lequel j'étais, c'est est-ce que potentiellement tu peux être le prochain Google? Est-ce que tu vas générer beaucoup d'argent? Et c'est ça qui les intéresse. Donc Après, plus ils mettent d'argent, en fait, la manière dont alors, j'ai pas envie de faire start-up, le cours de start-up, investissement start-up.
Ça, c'est pas un podcast business, donc voilà. C'est pas obligatoire.
Mais en fait, ce qui se passe, c'est la chose suivante. C'est qu'en fait, quand tu lèves quand les investisseurs te donnent de l'argent, c'est pour avoir des parts dans une entreprise. Donc, je vais te donner un exemple. Si quelqu'un te donne 100 000 dollars, il faut que tu dises c'est quoi la valorisation de l'entreprise. Donc, si tu dis tu investis 100 000 dollars et que la valorisation de l'entreprise, c'est 1 million de dollars, la personne aura 10%. Donc, plus elle donne d'argent, plus elle a des parts. Donc, la personne, en fonction de ce qu'elle pense, quelle est l'opportunité, la personne va te donner plus ou moins d'argent pour avoir plus ou moins de parts dans l'entreprise. Donc, c'est pour ça qu'après, les gens vont essayer de mettre de l'argent. Alors, je peux comprendre pour les personnes qui nous écoutent, si pour les personnes habitant en France, les montants peuvent peut-être être déroutants, mais on n'est pas sur la même échelle. C'est-à-dire que quand après, tu as des entreprises comme Google qui peuvent se faire, bah, les retours vont être importants.
Je vois. Est-ce que tu penses que être aux États-Unis, ça a rendu ce projet possible? Est-ce que tu penses que tu aurais pu le faire ailleurs, par exemple?
Pas en France. Enfin, c'est pour moi, ce que j'ai fait avec l'immobilier, ça aurait été impensable en France. Je ne pense pas qu'en France, tu as vraiment beaucoup d'endroits où tu peux avoir des maisons pour 20 000 dollars, 30 000 dollars. Je ne pense pas qu'en France, tu as la culture de l'entrepreneuriat. Puis, pour être franc, en France, tu arrives avec un jean, un t-shirt, et tu dis, je vais faire une entreprise, donnez-moi 2 millions de dollars. Je ne pense pas que les gens ils te prennent en sérieux. Je pense que la France est davantage gouvernée par des gens qui ne sont pas vraiment sensibles à ces arguments-là. Et par ailleurs, on regarde ce qui se passe aujourd'hui en Europe, c'est un peu vrai. Tu regardes qu'aujourd'hui, en Europe, on commence à essayer de réguler avant même qu'on ait des sociétés qui fonctionnent. L'exemple, c'est ce qui s'est passé dernièrement sur la régulation pour l'intelligence artificielle. On n'a pas vraiment eu de cas où tu avais des problèmes sur l'intelligence artificielle, mais on a commencé à réguler. On pleure avant d'avoir mal. Si tu regardes même la France, enfin l'Europe, la RGPD, moi, le seul impact de la RGPD, ce n'est pas la protection de mes données, c'est avoir une espèce de bannière qui me dit « Est-ce que vous acceptez les cookies ?»
Voilà, c'est insupportable, d'ailleurs.
Voilà, mais on a pas cette culture. Jamais j'aurais pu avoir, enfin, aussi bien l'éducation, je suis vraiment chanceux d'avoir eu l'éducation que j'ai eue en France, mais toute la réussite que j'ai eue au niveau business, je la dois aux États-Unis.
Tu penses qu'il y a un facteur culturel aussi? Enfin, tu en as un peu parlé, mais est-ce que cette culture de l'échec, par exemple, ou est-ce que le fait que les gens puissent peut-être un peu plus te faire confiance, est-ce que c'est des choses qui ont pu jouer là-dedans?
Alors, je pense que ce qui compte énormément, c'est d'être vendeur. Aux États-Unis, il faut que tu arrives à te vendre.
Ouais.
Moi, j'étais très mauvais là-dessus. C'est pour ça que ça m'a pris 6 mois à lever des fonds. Des gens qui sont meilleurs vendeurs, à mon avis, auraient plus de succès. Mais d'ailleurs, tu le vois aux États-Unis, comment les gens te vendent les choses, l'entertainment qu'il y a, comment on te vend tout et n'importe quoi, c'est hallucinant. Et puis les gens achètent tout et n'importe quoi aussi.
Ouais, tout se vend, c'est simple.
Tout se vend. Alors, pour les auditeurs qui nous écoutent, aujourd'hui, on est le 5 avril 2024. Et aujourd'hui, on a eu un tremblement de terre à New York. Et le tremblement de terre était ce matin. Tu l'as senti, j'imagine?
Oui.
Et tu avais déjà des gens qui vendaient des t-shirts, j'ai survécu au tremblement de terre aujourd'hui.
J'ai vu ça.
donc, y a une, y a vraiment une culture à créer, mais aussi vendre. C'est marrant. Mais moi, c'est quelque chose que je ne sais pas trop faire.
Justement, en parlant de vendre, ça t'a pas pris beaucoup de temps avant de revendre cette entreprise-là. C'est quoi le processus pour avoir sa start-up se faire acheter par une grosse entreprise?
Alors... J'ai pas la recette magique et je pense pas l'avoir. Je pense qu'il y a eu un facteur chance. Mais déjà, quand tu vas faire une start-up et que la start-up fonctionne, et que est-ce qu'on a, que tu as de l'attraction, donc des gens qui viennent, qui utilisent le produit, tu vas avoir des offres de rachat. Moi, ma première offre de rachat, je l'ai eue 2 semaines après avoir levé des fonds. Et après, j'ai ignoré ces offres-là et ces emails-là. Mm-hmm. Parce qu'en fait, c'est du bruit. Et en fait, quand tu vas être entrepreneur, ton but, c'est de faire un très bon produit, quelque chose qui résout un vrai problème, d'avoir du revenu, d'être profitable. Mm-hmm. Et pour ça, il faut que tu te focalises sur faire un produit, discuter avec tes clients et compagnie. Et pas avoir des discussions pour une acquisition potentielle où en fait, ça va aller un peu nulle part.
Parce que général, souvent, les grosses entreprises de la tech veulent racheter les plus petites pour limiter la concurrence, etc. C'est ça ?
Pour limiter la concurrence, pour aussi avoir du talent. Et tu as beaucoup d'entreprises. Les États-Unis, c'est un énorme pays. Donc, tu vas avoir beaucoup de personnes qui vont être intéressées. Et puis après, ce n'est pas uniquement pour te racheter, ça va être aussi pour faire des partenariats. Puis tu as des gens, ils veulent juste, après avoir un travail, tu as plein de raisons pour lesquelles les gens veulent te contacter. Mmh. Et en fait, ton but à toi, c'est de couper tout ce bruit. Et donc, du coup, quand des gens me disaient on veut faire un partenariat ou racheter la boîte, enfin, quand tu vois des gens qui viennent d'un département, ce qu'on appelle corporate development, c'est le département des gens qui font des acquisitions. J'ignorais tous ces emails-là. Cependant, Datadog, c'est une entreprise que j'ai toujours admirée. On était utilisateur de Datadog, on était client de Datadog quand on faisait Codiga. Et quand j'ai reçu un email de Datadog, j'ai pris cet email au sérieux et j'ai répondu et j'ai engagé les conversations.
C'est une entreprise fondée par des Français en plus.
C'est une entreprise fondée par des Français. Je me suis beaucoup inspiré de cette entreprise. J'ai suivi les fondateurs, enfin pas suivi, mais je regardais ce que les fondateurs faisaient. Mm-hmm. C'est des personnes qui ont fait un très bon produit. J'avais énormément d'admiration, et puis j'ai toujours une admiration pour ce qu'ils ont fait. Ils ont fait un très bon produit, ils ont eu une discipline pour vraiment faire un produit qui plaise aux clients. Je pense que c'est quelque chose qui est très bien, et c'est vraiment la culture que moi j'avais, et que je veux continuer à avoir. Et du coup, je pense que c'était quelque chose qui allait fonctionner. Donc du coup, après, j'ai répondu à l'email, on a échangé, et puis après, on a décidé de poursuivre l'acquisition.
Ok. Et avec cette acquisition, ça voulait dire que tu devais déménager à New York aussi.
Alors, c'est marrant, mais moi, c'est quelque chose que je voulais. Parce qu'en fait, j'ai jamais vu l'acquisition comme c'est génial, ma boîte se fait acquérir et puis je vais avoir de l'argent. J'ai jamais vu ça comme ça. Moi, j'ai toujours vu ça comme un prolongement de la vision que j'avais. C'est-à-dire que quand j'ai fait cette entreprise, j'avais cette idée de faire un correcteur de code qui fonctionne partout. Et quand j'ai rejoint Datadog, j'ai vu ça comme une opportunité de continuer ça, mais avec plus de moyens et de toucher plus de gens. Et donc, quand ça s'est fait, la meilleure manière d'avoir de l'impact quand tu rejoins une entreprise, c'est d'aller directement à la maison mère. La maison mère de Datadog, c'est New York. Donc, du coup, il me semblait naturel pour moi de déménager à New York. Alors effectivement, le Normand qui est en moi, n'a pas forcément aimé migrer de Denver à New York, mais je pense que si à un moment, si tu veux vraiment faire un produit qui est bien et t'intégrer dans la boîte, c'était la bonne chose à faire.
Et en tant que Français, être dans ce monde de la tech américaine, la Silicon Valley, etc., tu penses que ça a été un atout ou est-ce que les gens s'en fichent? Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'immigrants qui travaillent dans le domaine aussi. Comment tu l'as ressenti, toi?
Je pense pas que ça a vraiment d'impact d'être Français. Ouais. Vraiment, je pense que surtout aux États-Unis et puis surtout après quand tu es à San Francisco ou à New York. Puis regarde même dans la tech, beaucoup de CEO aujourd'hui sont de nationalités différentes. Tu regardes Microsoft, Satya Nadella ou Google avec Sundar Pichai, tu as beaucoup de personnes qui sont immigrants. Alors après, peut-être seconde génération, mais ce n'est pas vraiment un problème. Je pense que le pays est assez ouvert de ce point de vue-là. Donc, je ne pense pas que ce soit quelque chose de bien ou de mal. Je ne pense pas que ça ait vraiment une importance. Je pense que ce qui est plus important, c'est tes capacités techniques et tes capacités de vente, la capacité à te vendre toi-même. Je pense que c'est très important.
Mmh. Et tu penses qu'avoir un anglais nickel, c'était nécessaire ?
Je ne pense pas que j'ai un anglais nickel. Ouais. j'ai toujours un accent qui est assez terrible. Quand j'étais à Carnegie Mellon, donc au tout début, quand j'étais aux États-Unis, certaines personnes avaient du mal à travailler avec moi, justement parce que j'avais cet accent-là.
Ouais.
Et donc, parfois, ça peut jouer des tours. Je pense qu'après après plus de 10 ans aux États-Unis, maintenant, ça a bien marché pour moi, donc ce n'est pas vraiment un problème.
Ouais.
Je n'ai pas d'aspiration à faire de la politique ou des choses comme ça. Donc, ce n'est pas un gros bloqueur pour moi. Et dans l'industrie que j'ai, ce n'est pas quelque chose qui est bloquant. Encore une fois, je serai dans une industrie différente où je voudrais peut-être toucher plus de gens. Encore une fois, peut-être politique ou des trucs comme ça. Ce serait différent, mais ce n'est pas le cas pour moi.
Et justement, après plus de 10 ans aux États-Unis, ouais. Comment tu décrirais les principales différences culturelles entre les États-Unis et la France ? Pas forcément dans l'entrepreneuriat, mais juste dans la vie de tous les jours, toi qui côtoies des Américains tous les jours.
Je dirais que les gens sont plus ouverts.
Ouais.
Les gens sont beaucoup plus ouverts, ils parlent beaucoup plus. Alors après, ça donne des choses bien, mais aussi des choses pas moins bien. Tu as des personnes qui vont être très ouvertes, qui vont vraiment dire ce qu'ils pensent. Et puis parfois, par exemple, tu vois, ce qui s'est passé, par exemple, je me rappelle avec Kanye West, c'est un peu... un résultat de la culture américaine. Ouais. C'est quelqu'un qui dit ce qu'il pense tout haut. parfois, ça peut choquer les gens.
Ouais.
Ce n'est pas forcément ce que j'aime, mais au moins, il peut le dire et il le dit. Alors, je pense que les gens sont plus ouverts. Je pense aussi, moi, il y a une différence que j'adore. Enfin je le redis, c'est la diversité culturelle, culinaire, enfin, ethnique que tu as partout. Je trouve ça vraiment...
Tu es en train de me dire que les États-Unis, ce n'est pas que des burgers et des frites, alors.
Ah non, mais pas du tout.
Je sais, il y a tellement de stéréotypes comme ça que c'est intéressant à écouter.
Mais oui, mais ça, c'est des gens qui ne sont pas venus.
Ouais.
Non, mais regarde la nourriture mexicaine.
Ouais.
Alors, après, ce n'est pas vraiment mexicain parce que c'est très ce qu'on appelle Tex-Mex. C'est-à-dire que...
C'est un mélange.
Voilà, exactement. Mais tu vas avoir tout ce qui va être nourri... Donc oui, cuisine sud-américaine, cuisine asiatique. T'as des bons restaurants de ramen. Je sais pas, même tu vas à il me semble que c'est Jackson Heights à New York.
Ouais.
T'as des restaurants indiens qui sont super bons.
Ouais.
Donc ça, non, ça me plaît. Puis l'autre truc qu'il y a que j'adore aux États-Unis, c'est que tu as plus de liberté. Tu veux créer une boîte, tu prends 100 $ et puis la boîte est créée rapidement. Même des choses très simples. Hein. Tu peux aller faire tes courses un peu à n'importe quelle heure. Moi, ça me plaît.
Ouais.
En France, on a tellement de... Enfin, c'est ce que je disais, on a tellement de régulations, on essaie de tout contrôler. J'aime pas. Moi, j'aime bien. J'ai envie de faire ce que je veux quand je veux. Tant que ça ne dérange pas mon voisin. Et voilà.
Donc maintenant, tu es américain, ou en tout cas franco-américain, mais tu as la citoyenneté.
Ouais.
C'était comment le processus de citoyenneté ? Je sais que c'est 5 ans après la green card. Je sais qu'il y a une petite cérémonie à la fin. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu ?
Alors, même pas. Moi, je n'ai pas eu la cérémonie.
Ah ouais ?
Ouais, non, même pas. En fait, ce qui s'est passé, c'est que c'était pendant le Covid. Et je venais d'arriver à Denver. Alors, tu as sûrement entendu des blagues sur l'administration américaine, par exemple le DMV. On fait toujours cette blague que le DMV. Mais en fait, moi, ce n'est pas du tout le cas. L'administration américaine a toujours été géniale. Le DMV a toujours été très rapide pour moi. L'administration pour la sécurité sociale a toujours été très rapide.
Je suis assez d'accord.
Et l'immigration, pour moi, ça a été génial. C'est-à-dire que j'ai envoyé ma demande par Internet pour avoir la citoyenneté. Et ils m'ont dit que ça allait prendre 1 ou 2 ans. Il me semble, au bout de 9 mois, j'ai eu la nationalité.
Ah ouais.
Donc ça a été très, très rapide. Et en plus, j'ai fait ma demande quand j'étais à San Francisco et la demande a été acceptée quand j'étais à Denver. Donc même, ils ont passé les dossiers sans problème. Hein. Et donc, ce qui se passe, c'est que tu dois répondre. Alors, c'est vraiment... tu dois répondre à un test de citoyenneté. Tu as le droit de faire 4 erreurs.
Ouais. Donc, t'as sur combien de questions ?
10 questions. Mais les questions, tu as des questions. Tu as des questions, c'est quel est le président des États-Unis ? Mm-hmm. C'est pas, après, tu as des questions. Cite-moi 2 ou 3 États qui partagent la frontière avec le Mexique. Mm-hmm. C'est pas très dur. Par contre, ouais, tu as des questions parfois un peu plus difficiles sur la déclaration d'indépendance et des trucs comme ça. Mais en général, ça va. Et alors, le questionnaire avec les réponses est disponible en ligne. Mmh. Donc pendant deux semaines, j'ai bachoté tous les soirs pendant 10 minutes. Et puis après, j'ai répondu aux 6 questions sans problème.
Donc le questionnaire est toujours le même. C'est pas genre comme le code de la route français où tu dois savoir des trucs, mais tu sais pas s'il va tomber.
Le questionnaire, c'est toujours les mêmes 100. T'as une banque de 100 questions.
Okay.
Et te pose des questions sur les 100.
Okay.
Et puis après, il te demande d'écrire quelque chose en anglais. Et voilà. Okay, et après, oui. Alors après, il te demande de dire que tu t'es pas. Enfin, il te pose des questions pour vérifier tes affiliations politiques et compagnie. Et après, il te donne un drapeau et il te félicite. Tu peux avoir une cérémonie, mais moi, avec le Covid, il n'y avait pas de cérémonie. Donc ils m'ont donné le petit drapeau en me disant félicitations, vous pouvez avoir un passeport.
Et l'idée pour toi, c'était de ne pas avoir à renouveler ta green card, ou c'était un côté plus symbolique ?
Ah non, c'est... moi, ma vie, elle n'est pas en France. Ma vie, elle est aux États-Unis.
Tu dirais que tu es américain aujourd'hui ?
Ah bah oui, bien sûr.
Ouais, plus que français.
Non. Ah bah oui, bien sûr. Je suis peut-être français pour le fromage, mais ouais, ça s'arrête là. je suis sûrement français pour le fromage, mais ça s'arrête là. Ma vie, elle est aux États-Unis. Les États-Unis m'ont énormément donné... Je suis très heureux d'avoir vécu en France, je suis très heureux de mon héritage culturel, mais là où je vis et ma vie, elle est et elle restera aux États-Unis. Et depuis que j'ai quitté la France, je ne me sens pas français, donc du coup j'ai arrêté de voter, je ne suis pas impliqué. Je regarde un peu parfois la télé en France, je regarde 2-3 trucs. Mais après je ne m'implique pas, je ne vote pas. Je m'implique dans la ville de Pittsburgh par exemple, je vais aller voter aux élections. Et je ne vais pas faire ça en France.
Et justement aux États-Unis, tu as vécu vraiment dans les 4 coins du pays. Ouais. Littéralement, est-ce que tu pourrais m'expliquer un peu les différences de culture entre les États ? Est-ce qu'il y a des trucs que tu as remarqué entre la côte Est et la côte Ouest par exemple ?
Ah, y a un truc vraiment... c'est quelque chose, c'est un cliché, mais je pense que c'est vrai. C'est que sur la West Coast, donc la côte ouest, tout ce qui est San Francisco, Los Angeles, je pense que les gens sont nice but not kind. Donc ils sont gentils mais pas kind, comment tu dirais?
Aimable peut-être. Non, j'aurais dit nice, aimable, kind, gentil du coup, mais je sais pas si...
Je sais pas, mais bienveillant. Bienveillant. Ouais. Kind, c'est bienveillant. Donc, ils sont gentils, mais pas bienveillants.
OK.
Mais à l'inverse, la East Coast, les gens sont bienveillants, mais pas gentils. Je pense que tu as une grande différence. C'est qu'en East Coast, les gens sont plus agressifs. Mais quand tu as vraiment besoin d'eux, ils sont présents.
Ouais.
À l'inverse, la côte ouest, les gens vont te faire des grands sourires. Mais quand il s'agit d'avoir besoin d'eux, ils ne seront pas là. Et je trouve les relations sur la côte est beaucoup plus franches, alors que sur la côte ouest, c'est beaucoup plus mielleux. C'est beaucoup plus sournois. J'ai pas vraiment aimé la côte ouest. Moi, ouais, malgré la tech, c'est pas mes valeurs, c'est pas comme ça que j'ai été éduqué. J'ai toujours été quelqu'un de très franc et très honnête. J'essaie jamais de faire quelque chose en fourbe, enfin voilà. Mais la côte ouest, ça m'a pas vraiment plu et je me sens vraiment beaucoup mieux sur la côte est.
Est-ce que tu as des exemples comme ça de moments où vraiment tu as senti un choc culturel, on va dire, où tu sentais qu'en 18 ans que tu es américain, il y a vraiment un truc qui passait pas?
Moi, le choc culturel, ça va pas être côte ouest et côte est. Moi, ce qui m'a choqué quand je suis arrivé aux États-Unis, c'est vraiment la culture de la carte de crédit. Ça me fait halluciner. Je ne comprends pas. Tu achètes tout à crédit, mais arrêtez. Enfin,
c'est difficile de s'y faire au début.
Ah non, mais je n'arrivais pas du tout à m'y faire. Et que l'idée que ce soit OK. Alors, déjà, la relation à l'argent, que les gens dépensent autant d'argent qu'ils n'ont pas. Mmh. Et ce besoin de consommer énormément, moi je comprends pas, alors que je suis quelqu'un de très frugal et qui se focalise sur l'essentiel, c'est-à-dire que j'essaye pas d'accumuler des choses. Mmh. Et donc l'idée de carte de crédit pour aller acheter tes courses, c'est bizarre. L'idée de crédit qui dure 30 ans, enfin, dans ma tête, pour moi, tu fais un crédit quand tu as 30 ans. Tu ne penses pas d'avoir fini de le rembourser quand tu as 60 ans. Mmh. Je ne sais pas si tu as entendu parler, mais quand les gens font des emprunts sur la maison qu'ils possèdent, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont une maison, ils ont payé la maison, ils sont propriétaires de la maison, ils vont mettre un mortgage. Une hypothèque, donc, alors, je ne sais pas exactement le terme, mais en gros, ils vont mettre un espèce de prêt en plus pour prendre de l'argent et investir après dans des actions, dans d'autres trucs. Enfin, le rapport à l'argent est un peu bizarre. Mais après, peut-être que c'est mon éducation française, normande, un peu rationnelle qui revient, je ne sais pas. Mais moi, j'ai eu beaucoup de mal à ça, avec ça.
Et c'est obligatoire en plus, parce que si tu veux avoir un bon crédit score, tu es obligé de consommer et d'avoir un crédit.
Ah oui, et puis surtout qu'au début, quand je suis arrivé aux États-Unis, je n'avais pas de crédit score. Quand j'ai acheté ma première voiture, le crédit était à il me semble que c'était dans les 20%. C'était vraiment un truc de fou.
C'est ridicule.
Et voilà. Et à l'inverse, pour acheter des maisons, j'ai jamais fait de prêt. Ouais. Mais ça, enfin vraiment, ça a été et ça et puis la surconsommation, c'est des choses qui m'ont vraiment fait bizarre au début.
T'as aussi beaucoup voyagé aux États-Unis, notamment pour des marathons. T'as visité plein de villes différentes, plein de régions différentes. Est-ce que tu as un souvenir particulier de tous ces voyages, quelque chose que tu as trouvé particulièrement beau, particulièrement impressionnant?
Moi, ce qui m'a... Il y a deux endroits qui m'ont marqué. Il y a la vallée de la mort, donc Death Valley.
Ouais.
En plein août, c'est marquant. Tu as un vide. Tu as un silence. C'est une expérience. D'y aller, c'est vraiment une expérience. Donc, Death Valley. L'autre endroit que j'ai vraiment adoré, c'est le parc des Arches dans l'Utah.
Ouais.
Donc, au sud de Salt Lake City et puis à l'ouest de Denver, tu as un parc qui s'appelle le parc des Arches. C'est que des roches rouges. C'est magnifique. Ouais. Tu y vas et encore une fois, c'est pas un désert, mais c'est... T'as personne qui vit, tu passes avec ta voiture, tu vois ces espèces de grandes roches, c'est magnifique. Moi, c'est vraiment des choses qui m'ont, qui m'ont marqué. J'avais fait un 50 ou 60 km dans le parc des Arches, c'était génial. En plus, tu arrives en haut des grandes roches, tu vois vraiment tout le paysage, c'est magnifique. Il y a aussi un ultra-marathon dans la Death Valley, mais ça fait 135 miles en août. J'ai pas encore fait.
Ah, tu l'as pas fait? Ok. Non, mais... T'as déjà couru dans la Death Valley ou t'as juste visité en voiture?
Non, j'ai juste visité en voiture. Moi, le maximum que j'ai fait en course à pied, c'était 100 miles, donc 160 km.
Ouais.
Après, j'ai fait des distances un peu plus courtes, donc 100 km, 50 km. Puis après, des marathons, des semi-marathons. Mais j'ai jamais fait. Si tu regardes ce marathon qui s'appelle Badwater, parce que tu as un bassin qui est en dessous du niveau de la mer, ce qui est très salé dans la vallée de la mort, où tu vois où c'est blanc et tu vois le sel. Quand tu t'entraînes à faire cet ultra-marathon, en général, les gens s'entraînent en mettant une doudoune dans un sauna.
Ok.
Ouais, tu prends un manteau, tu vas dans un sauna, tu t'entraînes à avoir la chaleur. Tu as même des gens qui s'entraînent à courir sur un tapis dans un sauna. Donc, ils installent un tapis de course dans le sauna et puis ils courent. Donc, je pense que moi, j'aime beaucoup courir. Mm-hmm. C'est quelque chose que je fais tous les jours. Mais je pense qu'à un moment, il y a des limites. Et je ne vais, vais pas faire ça. Ce n'est pas ce qui me dit. Quoi.
Malgré tout, tu as quand même fait des trucs hyper impressionnants. Tu as une liste à rallonge sur ton site de marathon que tu as couru.
Ouais.
C'est quoi qui te pousse à faire tout ça?
Je ne sais pas. C'est qu'il y a un moment, je pense que tu essayes toujours de voir jusqu'où tu vas aller et de tester tes limites. Quand j'ai fait la start-up, je voulais voir si j'en étais capable. Tu veux vraiment te tester et pas te satisfaire de ce que tu as déjà fait. C'est la même question de pourquoi tu fais aujourd'hui un podcast. Ça te plaît, tu veux voir si tu peux le faire, si tu peux avoir de l'attraction, si ça peut réussir. Pareil pour tes vidéos, je pense que tu peux tu fais des expériences, tu essayes et tu essayes de progresser et de progresser toi-même. Donc, quand j'ai fait ces courses-là, au début, moi, j'ai fait ça pour perdre du poids parce qu'au début, quand j'étais jeune, j'étais obèse. À 25 ans, je faisais 130 kilos. Après, 2 ans après, j'en faisais 60. Et après, courir m'a vraiment aidé à rester fit, enfin fit, c'est-à-dire en forme. Et en fait, quand tu es obèse et que tu as perdu beaucoup de poids, tu as toujours l'impression que cette personne que tu étais va te poursuivre jusqu'au restant de tes jours. Et d'un certain côté, je pense que je cours pour essayer d'échapper au petit gros qui me court après. Donc tous les jours, je vais, si tu regardes sur Strava, mon Strava doit être public. Strava, c'est un réseau social pour courir. C'est peut-être un des seuls réseaux sociaux où je suis. Mais tous les jours, je cours à peu près 10 km. Donc je dois faire 40 miles. Ça doit faire 60 km par 50, 60 km. Oui, plus 60 km par semaine. T'es terrifié que cette personne-là te rattrape. T'as pas envie d'être ça. Donc après, cette espèce de manie de courir, elle s'est transformée en je vais faire des courses à pied. Je vais courir 50 km, je vais courir 100 km, je vais courir 160 km dans l'Ohio, sur les trails, en plein août.
Et est-ce que tu as l'impression qu'il y a une culture du sport aux États-Unis? Parce que souvent, on a le cliché que tous les Américains mangent très gras, font très peu de sport, etc. Comment tu le ressens, toi? Est-ce que tu penses que c'est facile de faire du sport ici?
Alors, je pense que la culture du sport aux États-Unis, c'est comme la culture du sport en France. On aime bien regarder dans son canapé le match OM-PSG et on aime bien regarder le football américain et le Super Bowl.
Ouais.
Alors, je pense que cela dit, je suis un peu méchant. Tu as quand même une culture. Je pense que tu as des gens. Mais c'est ça qui est difficile, c'est que les États-Unis, c'est le pays de l'extrême. Tu vas avoir les gens qui vont faire du bodybuilding. Tu vas voir les mecs à la salle, enfin les personnes à la salle de sport qui vont faire du bodybuilding ou qui vont courir. Et après, ils vont aller au McDo et bouffer des burgers et des frites. Donc c'est un peu paradoxal. Les États-Unis, c'est un pays avec beaucoup de paradoxes. Les personnes vont te dire qu'il faut sauver le climat, mais après, ils vont prendre un Hummer. Et dépenser 4 litres d'essence pour faire 10 km.
Ouais.
Donc, je ne sais pas vraiment s'il y a une culture du sport. Je pense que tu as beaucoup de gens qui font du sport régulièrement. Là, il y a la culture d'aller à la gym. Les gens vont beaucoup plus à la gym aux États-Unis qu'en France. Pour autant, je ne sais pas s'ils sont plus gros. Je n'ai pas les statistiques pour voir s'ils sont plus gros ou moins gros. Je dirais qu'ils sont plus gros parce que c'est le biais cognitif qu'on a, mais je ne sais pas si c'est vrai. Je ne sais pas, t'en dis quoi, toi?
C'est exactement la même chose. C'est une histoire de contraste. C'est aussi ici qu'il y a effectivement les personnes les plus obèses. Il me semble que les chiffres montrent que c'est le pays avec le plus d'obèses. Je crois que le Mexique est beaucoup touché aussi. Mais en même temps, maintenant en France, il y a de plus en plus de gens qui vont dans les salles de sport. Mais c'est une culture qui vient des États-Unis, j'ai l'impression. et qui a été importé en fait avec dans les années 80, il y avait Schwarzenegger, Stallone, etc., qui a beaucoup inspiré. Et après, c'est arrivé chez nous. Mais comme tu dis, c'est une question de contraste. Tu vois à New York, par exemple, il y a ces salles de sport avec des grandes fenêtres et tu vois les gens faire du sport depuis la rue. C'est assez dingue aussi. Donc, il y a vraiment les deux penchants.
Il y a un truc qui est marrant, c'est, tu sais, on parlait de... Enfin, je parlais du paradoxe aux États-Unis. C'est-à-dire qu'en fait... tu vas voir les gens qui vont te dire ils font sauver le climat, mais après ils vont prendre la bagnole pour faire 10 km et ils vont consommer 4 litres de pétrole. À l'inverse, en France, il y a aussi un énorme paradoxe français, c'est-à-dire qu'on va critiquer les Américains et la malbouffe, mais on est le second plus gros consommateur de McDonald's.
Exactement, gros paradoxe français.
c'est assez marrant en fait quand tu regardes sur le papier.
Exactement. Puisqu'on continue dans les clichés, est-ce qu'il y a un cliché américain, toi, que tu as envie de démystifier, qui t'énerve un petit peu?
Alors, un des trucs, c'est vraiment... je pense qu'on voit le cliché qu'on voit pour l'américain, c'est l'espèce de conquérant. C'est, tu sais, la personne qui pense qu'il n'y a que les États-Unis. Et je pense qu'il y a beaucoup plus de gens qui sont éduqués. Alors, on prend toujours le cliché, et c'est marrant parce que tu vas voir les gens de New York qui sont un peu éduqués, ils vont te dire, ouais, ils vont te critiquer la personne qui habite au Wyoming, par exemple. Et je pense que c'est pas si vrai que ça. La personne qui se fout des autres, je pense pas que ce soit si vrai. Je pense que les personnes, au contraire... se moquent pas vraiment des autres. Je pense pas que les gens soient vraiment si ignorants que ça. On aime beaucoup à se moquer des Américains qui connaissent pas la géographie. Je pense pas que ce soit si vrai que ça. Alors, c'est vrai, tu vas l'avoir, mais aussi en France, on l'a aussi. Enfin, on n'est pas... Je pense pas qu'on soit si... si pur. Et je pense que les gens sont beaucoup plus gentils que ce qu'on essaye de faire penser. Je pense que c'est un cliché.
Avant de terminer, je voulais te demander si tu avais un conseil à donner à un jeune Français qui veut travailler dans la tech aux États-Unis ou qui veut entreprendre ici. Parce que bon, on entend plein de trucs sur comment monter un business, etc. sur Internet. Et il y a souvent beaucoup de bêtises. Toi, tu as fait tout ça. C'est quoi ton conseil?
Moi, ce que je dirais, c'est attendez pas pour vous lancer. En fait, beaucoup de gens remettent les choses à demain, remettent tout à demain, c'est-à-dire ce qu'ils pourraient faire aujourd'hui, ils le remettent à demain. Arrêtez de vous poser des questions, commencez maintenant, commencez aujourd'hui. Vous allez vous planter, vous allez faire beaucoup de bêtises. Mais en fait, ce qui compte, c'est pas si on fait des erreurs. Tout le monde fait des erreurs. Y a un dicton français qui dit un con qui marche va plus loin que quelqu'un intelligent assis, et je pense que c'est vraiment vrai. Il vaut mieux commencer maintenant, faire des erreurs, on ira plus loin, on apprendra. On apprend énormément de ces erreurs. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes, surtout en France, on leur dit t'es pas capable de faire ci, t'es pas capable de faire ça. On leur met des freins. Arrêtez, commencez maintenant, vous allez faire des erreurs. Et peut-être que ça n'a pas marché, mais en général, c'est pas à la première tentative que ça marche. Donc, arrêtez, alors après avec raison, mais arrêtez d'écouter les gens qui vous disent que ça va pas marcher. Tentez votre chance, apprenez, itérez sur vos idées, mais lancez-vous. Lancez-vous, parce que si vous ne lancez pas, vous le regretterez toute votre vie.
Et enfin, pour terminer, une question que j'aime beaucoup poser aux invités, est-ce que tu penses que le rêve américain existe? Et si oui, ce serait quoi ta définition?
Ouh, ça c'est dur. Je pense que le rêve américain, enfin, d'un certain côté, c'est être libre et pouvoir se développer et faire ce que tu veux. De pouvoir avoir la liberté d'entreprendre ce que tu veux, mais c'est pas forcément faire une boîte. Ça peut être faire quelque chose de fonder une famille ou quelque chose comme ça. Et je pense que c'est ça vraiment le rêve américain. Alors après. Est-ce que ce rêve-là existe encore? Je ne sais pas. je pense que on a aujourd'hui, il y a un problème aux États-Unis où tu as une classe moyenne qui est assez faible. Mm-hmm. Et ça, c'est un problème qui fait que tu as peu de personnes qui peuvent vraiment réaliser leur... enfin, se développer. Et ça, je pense que c'est un problème. Je pense qu'il existe encore, mais il faut qu'on fasse en sorte qu'il continue d'exister. Mmh.
Tu penses le vivre, toi ? Tu penses avoir bénéficié de ce rêve américain ?
Ah, complètement. Moi, j'ai eu énormément de chance. J'ai eu énormément de chance parce que j'ai eu une bonne éducation, j'ai eu une famille qui m'a énormément soutenu quand j'étais jeune, de par l'éducation. J'ai eu... Enfin, mes parents étaient divorcés, mais j'ai eu des parents qui m'ont énormément soutenu. Et puis après, j'ai eu beaucoup de chance. Alors, il y a eu énormément de travail, hein, j'ai beaucoup travaillé, mais tu as toujours un facteur chance. Mmh. Si les gens ne reconnaissent pas ce facteur chance-là, en général, ils se trompent. Tu as toujours besoin d'énormément travailler, mais tu as aussi besoin à un moment d'avoir un coup de chance.
Mmh. Eh ben, merci beaucoup. Pour terminer, j'aime toujours demander si tu as une musique, un son qui... représente ton aventure aux États-Unis, qui tu penses est une bonne illustration de ce dont on a parlé aujourd'hui.
Alors, j'y ai réfléchi.
Ouais.
Je pense que ce qui me. S'il y a une musique vraiment que je garde, c'est Touch de Daft Punk.
Ok.
Je trouve que cette chanson arrive à avoir des moments tristes, des moments très heureux. Mmh. Et c'est la chanson qui a été utilisée quand les Daft Punk se sont séparés. Mmh. Je suis un gros fan de musique électronique et je pense que c'est une des plus belles chansons des Daft Punk.
Et en plus c'est français et ça fonctionne très bien aux États-Unis, donc c'est un beau c'est un beau symbole.
Exactement.
Et ben merci beaucoup.
Merci Arthur.
À bientôt. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, pensez à le noter et laisser un commentaire, ça m'aidera beaucoup. Suivez-moi aussi sur les réseaux sociaux et abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour continuer ce voyage aux États-Unis. Les liens sont dans la description. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. À très bientôt.